La sorcière, on l'a dans le cœur. Moi-même, quand je suis fatiguée, ben, je m'oblige. Parce que je sais que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui attend et qu'on ne peut pas se permettre de décevoir cette personne-là. Et quand on décide de faire quelque chose, c'est comme un travail. C'est pareil. J'ai décidé d'aider cette personne. Ce n'est pas parce que je ne suis pas rémunérée pour que je vais dire ben, « ce n'est pas la peine, je ne le fais pas ». Non. Au contraire, ce n'est pas rémunéré, je vais le faire doublement.
Bonjour à tous, très heureux de participer aujourd'hui au podcaston organisé par Ocha. C'est l'occasion de vous faire découvrir une association que m'a recommandé mon associé Siam Sentissi, El Baraka Angels. Je ne me risquerai pas à traduire précisément El Baraka, mais même en français, tout le monde comprend « avoir la baraka ». Voilà une expression arabe qui a infusé dans notre langage. El Baraka Angels a été lancé par une femme aussi discrète que remarquable, Salwa Ziné. En l'écoutant, je me suis rappelé cet épisode avec le groupe SOS et Nicolas Froissart, qui veut rendre le monde plus chouette. Ces deux-là s'entendraient bien. Nicolas répète à l'envi qu'il faut nommer nos héros. Salwa est une héroïne, écoutez-la. C'est sans fioritures, droit au but, mais surtout, c'est très très beau.
Bonjour Salwa.
Bonjour Céline.
Je te remercie beaucoup d'être venue jusqu'à notre bureau.
Merci pour à vous pour cette belle opportunité.
Super, bah, ravie en tout cas de t'accueillir. Comme je te le disais juste avant l'enregistrement, j'ai découvert l'association, en tout cas à titre personnel, suite au séisme. Et c'est là où j'ai découvert El Baraka Angels. Et que finalement, c'était une association qui militait et qui œuvrait par rapport à un problème qu'on va évoquer toutes les deux tout à l'heure.
Oui.
Depuis déjà pas mal d'années. Et justement, avant de rentrer dans le détail de El Baraka Angels, je voulais qu'on commence cet enregistrement par quelques mots de ta part sur qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer El Baraka Angels, comment c'est né et derrière on déroule.
D'accord, très bien. Alors El Baraka Angels est né fin décembre 2012 suite à un très beau mouvement citoyen. Il y avait eu la mort de bébé suite à une vague de froid très poussée qui avait eu lieu dans la région d'Enfgou, dans la province de Midilt. Et on avait fait un mouvement citoyen où on avait collecté 100 tonnes de denrées alimentaires et on était partis à l'aventure. On était 60 bénévoles. On est partis avec nos voitures. On ne savait pas où on allait. Vraiment à l'aventure. On est partis avec nos camions, les voitures. Et pendant 3 jours, on était vraiment comme ça dans les villages en train de distribuer. On dormait chez l'habitant toutes les nuits. Et c'était une aventure magnifique. Et en passant ces 3 jours avec les gens, on a vu les problèmes auxquels ils étaient confrontés tous les jours. Les écoles, c'était des écoles qui étaient construites par l'État, mais qui, au fil des mois, commençaient à fuir de partout parce que les conditions météorologiques n'étaient pas bonnes et que les routes n'étaient pas bonnes pour pouvoir les rénover facilement comme les écoles des villes. Les dispensaires, il n'y avait pas de médecins parce que personne ne voulait aller travailler dans ces zones-là. Donc, ces personnes-là étaient confrontées à eux-mêmes, les routes n'était pas praticable. Et en revenant, j'ai décidé, avec 2 ou 3 personnes, de créer El Baraka Angels. J'ai proposé aux 60 bénévoles qui venaient d'un peu partout du Maroc de créer l'association. La plupart n'étaient pas d'accord.
D'accord.
Ils ont dit que c'était beaucoup de travail. On avait eu 1 mois de travail hard. On travaillait jusqu'à 3 heures du matin pour justement faire cette action humanitaire qui avait été juste magnifique. Et on a créé El Baraka Angels avec 6 personnes. Qui était vraiment un groupe familial.
D'accord.
Mon mari, ma fille, mon beau-fils, ma belle-sœur et son mari. Et c'est de là qu'est partie El Baraka Angels et qui est maintenant une association avec 40 membres.
Donc finalement, ça devient une histoire familiale.
C'est parti d'une histoire familiale et maintenant, elle est diversifiée.
D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus, justement, tu as commencé à évoquer la genèse de l'association et le problème qu'elle vise à résoudre. Mais justement, est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus par rapport à l'expliciter en fait ce problème-là? Quel est le quotidien des personnes qu'aujourd'hui l'association aide? Comment ces populations survivent avec et sans l'association? Et comment, à ton niveau et du coup, l'ensemble des membres bénévoles de l'association tendent à résoudre ce problème-là?
Alors, nous, comme toutes les associations, on s'est dit on va commencer à aider dans les zones montagneuses enclavées. Quand je dis vraiment enclavées, c'est les zones qui sont coupées par la neige. Quand il neige, les sentiers sont fermés, les gens ne peuvent plus s'approvisionner. On s'est dit, on va essayer juste avant la tombée des neiges d'aller leur amener un panier pour tenir les quelques jours, le temps que le chasse-neige passe et qu'ils puissent aller s'approvisionner. Donc, on a commencé par des caravanes humanitaires. En plus des caravanes humanitaires qu'on faisait pour le Ramadan. En faisant ça, on a vu que ces zones-là avaient besoin de dispensaires, avaient besoin de classes d'école correctes pour ces enfants-là, avaient besoin de puits. Donc, on a multiplié nos tâches. Ces gens-là, En général, quand on parle de provinces pauvres, comme la province d'Azelal, comme la province de Middels, ce sont des provinces où la terre déjà n'est pas très fertile. Donc, même quand ils veulent faire de l'agriculture, à part des noix ou des amandes, rien ne pousse. D'accord. C'est des terres rocheuses qui ne sont pas fertiles du tout, qui ne donnent rien du tout. À part leurs enfants, ils ont des enfants qui vont travailler à la ville. On sait très bien le personnel de maison au Maroc. La plupart envoient leurs filles travailler en personnel de maison. Une chose qu'on aimerait bien qu'ils s'arrêtent, que ces petites filles aillent à l'école. Les garçons vont travailler dans les chantiers, mais les parents restent. Donc, certains ont un petit bout de terrain où ils mettent quelques noyers ou quelques amandiers. Il y a des zones où on a un peu de safran. Mais c'est les seules cultures qui marchent. Donc, ils n'ont pas vraiment un choix de travail.
D'accord.
Certaines personnes disent, eh ben, ils devraient descendre en ville. Mais quand on voit en ville, déjà, on a beaucoup de chômage. Qu'est-ce qu'ils vont venir en ville faire? Ce sont des gens, pour la plupart, qui sont analphabètes. Les villes sont surpeuplées. Comment ils vont venir habiter alors qu'ils n'ont rien? Ce sont des gens très pauvres. Comment ils vont acquérir un logement? Comment ils vont pouvoir se nourrir tous les jours en attendant de trouver un travail? Donc, ils sont bien là où ils sont parce qu'ils se contentent du très peu qu'ils ont. Quand ils vont arriver en ville, ils ne pourront plus se contenter parce qu'ils vont vouloir être comme tout le monde. Leurs enfants vont aspirer à ce qu'aspirent les autres enfants. Quand ils vont aller à l'école, ils vont vouloir être habillés comme les autres enfants. Ils vont vouloir avoir ce qu'ont les autres enfants, ce qui est tout à fait légitime.
Oui.
Donc, ils sont bien là où ils sont. Il faudrait qu'on leur crée des opportunités de travail là où ils sont. Il faudrait essayer que des usines ouvrent là-bas pour leur procurer des emplois. Voilà. Donc, on a commencé au début par les caravanes humanitaires. En faisant les caravanes humanitaires, on a vu les états des écoles. On s'est dit, on ne peut pas laisser ses enfants aller à l'école dans cet état-là. Souvent, dans les écoles, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'eau. Les petites filles abandonnent l'école parce qu'elles ne peuvent pas aller aux toilettes. Donc, on a commencé à rénover les écoles des montagnes et à y apporter l'eau. Pour apporter l'eau, on a commencé à forer des puits. En forant les puits, on a essayé de mettre les puits à proximité de l'école, pour que les villageois puissent avoir aussi accès à l'eau. Et c'est ainsi, du coq à l'âne, les actions ont commencé à grandir. On a commencé à faire des petites médiathèques pour que les villages puissent avoir accès à Internet, des terrains de foot pour que les élèves puissent avoir accès aux terrains de sport, des bibliothèques pour que les élèves puissent avoir accès à la lecture, des petites choses comme ça. On a organisé des stages culturels avec des élèves des écoles françaises qui viennent pendant l'été s'occuper des enfants des montagnes.
D'accord.
Voilà.
Céloi.
Oui, Martin.
Céloi, c'est Martin. J'ai une petite question pour vous.
Oui.
En vous écoutant, ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression que c'est l'eau qui a été le déclencheur de tout. Bon, d'abord, c'est vous, évidemment, parce que sans vous, rien ne se serait passé. On va remettre l'église au milieu du village, si vous me permettez l'expression. Mais j'ai l'impression que, sans plaisanterie aucune, c'est l'eau qui a fait que tout a pu se faire et que s'il n'y avait pas eu les puits, il n'y aurait pas eu de médiathèque, il n'y aurait pas eu d'école, il n'y aurait pas eu de toilette.
Exactement.
Que tout commence par les puits. C'est le cas.
Exactement. L'eau est la source de la vie. D'ailleurs, cette année, on a un projet de forage de 100 puits.
Ah oui.
On vient de commencer il y a 2 semaines. Aujourd'hui, on a foré notre deuxième puits.
Sur les 100.
Oui, on a 2 ans pour forer 100 puits, un puits par semaine.
D'accord.
Ah, c'est fort, c'est fort. Un puits, c'est combien de temps? C'est quel moyen il faut pour créer un puits?
On fore un puits par jour. On a un partenariat avec une grande boîte qui nous finance.
D'accord.
Mais c'est pas que forer le puits, c'est faire l'éducation du village, leur apprendre la valeur de l'eau, qu'il ne faut pas perdre l'eau, qu'il faut prendre soin de l'eau, ne faut pas la polluer. Tout un travail, pas uniquement forer l'eau et s'en aller.
D'accord. Et ça, c'est vous qui faites ce travail-là d'éducation?
Oui, c'est à nous de le faire.
Waouh.
On va passer dans les villages où on va faire des forages et on aura des journées avec les enfants du village, avec les mamans du village, avec les papas du village. Voilà.
Ah, c'est top. Ça me fait penser à un film que vous avez très certainement vu, La source des femmes. Avec Leïla Bessi.
Je l'ai pas vu, mais je vais aller le voir.
Vous l'avez pas vu?
Non, je l'ai pas vu.
Mais attendez.
Je l'ai pas vu.
Il faut vous courir aller voir ce film.
Oui, je vais aller le voir.
Du coup, je vous fais pas
la source des femmes.
Je vous fais pas la source des femmes avec Leïla Bessi. Le film ne précise pas s'il se passe en Algérie ou au Maroc. En tout cas, certainement pas en Tunisie. Je pense que c'est un des deux pays.
D'accord.
J'ai un petit doute, très sincèrement. Mais en tout cas, c'est dans une culture de campagne musulmane maghrébine et pauvre. Et tout tourne autour de l'eau. Tout le film. C'est une magnifique comédie. C'est très émouvant.
Ben oui, même ici, on voit que les gens, ils font 4-5 kilomètres à pied pour aller ramener un bidon d'eau pour pouvoir travailler avec pendant la journée, laver ce qu'ils ont à laver, en boire, nourrir les bêtes. C'est pas évident. Hein.
Bien sûr. Donc, du coup, je comprends que le processus, ça a été 1, la caravane, 2,
oui,
l'eau, 3 l'éducation.
Oui.
Mais vous êtes combien pour faire tout ça, les 100 puits, les 4000 écoles et les...
Dans l'association, on est à peu près 40.
D'accord.
Mais ceux qui bossent sont peut-être 5 ou 6, la vérité. On est 5 ou 6 à faire tout ce travail.
Et les 5 ou 6 de la famille?
Non. De la famille, je crois qu'il n'en reste que 2 à travailler.
Et du coup, justement...
Et on a des bénévoles qui viennent et qui partent.
Et du coup, justement, quelle est l'organisation de l'association dans son quotidien? C'est quoi une journée classique à El Baraka Angel?
Alors, moi, je travaille toute la journée. Et une journée El Baraka Angels, pour moi, c'est 20 heures sur 24. C'est du non-stop.
D'accord.
C'est mon téléphone qui sonne à 7 heures du matin et qui sonne à 1 heure du matin. C'est pour ça que je lui dis, est-ce que tu veux répondre à ma place? Il est membre d'El Baraka Angels et c'est mon époux. Il me dit, c'est du non-stop pour toi, l'association. Je ne peux pas m'arrêter parce que c'est du non-stop, c'est du travail. Les gens ont tout le temps besoin de nous et surtout depuis le séisme, c'est vraiment... Les 2 premiers mois du séisme, c'était H24. On a travaillé jusqu'à 3 heures du matin tous les jours et on chargeait les camions et on prenait la route à 4h, 5h du matin pour aller secourir les gens, pour aller les aider, pour aller leur apporter du réconfort. Et jusqu'à maintenant, on est sur le terrain toutes les semaines. On n'a pas arrêté une semaine.
Ça nous permet de revenir sur cet épisode-là qui est celui du séisme qui m'a fait du coup découvrir l'association.
Beaucoup de gens ont découvert l'association
suite à cet événement-là. Ouais. Je suppose que cet événement a accéléré encore plus la détresse des populations que vous aidiez habituellement. Aujourd'hui, on en est où justement plusieurs mois après, quant à ces populations-là et quant à l'appui de El Baraka Angels vis-à-vis de ces populations?
Alors, c'est triste, mais... On en est quasiment presque au point de départ.
D'accord.
Tout le monde est encore sous les tentes. Certaines familles sont sous des modulaires. C'est déjà pas mal. Beaucoup de villages ont été relogés sous des modulaires par des associations, dont El Baraka Angels. On a pu reloger des familles sous des modulaires. L'État a donné à des familles une rente mensuelle pour que ces familles puissent louer en attendant de reconstruire leur logement. Mais les gens... ont refusé de sortir de la tente. Ils ont l'impression que s'ils vont louer plus loin, on va les chasser de leur terre et ils ne pourront jamais revenir à leur terre. Donc, ils ont pris l'argent. Personne n'est allé louer. Ils sont restés dans les tentes.
D'accord.
Malgré la pluie, malgré des zones où il y a eu de la neige, personne n'est parti. Maintenant, les gens ont commencé à toucher de l'argent pour commencer les reconstructions. Très rares sont les zones qui ont commencé à reconstruire. Presque personne n'a recommencé la reconstruction. Donc, j'ai l'impression que ça va durer encore quelques années, que ces gens-là vont être sous les tentes.
Encore pour quelques temps.
2 ans, je vais dire, moi.
Saloua, moi, j'ai suivi ça de loin. Hein, et donc, je ne suis pas du tout au fait comme vous l'êtes, évidemment. Mais l'argent qui a été, je ne sais pas comment il faut le dire, distribué, donné, partagé avec ces populations, il était prévu pour subvenir aux besoins vitaux, c'est-à-dire l'eau, la nourriture, des couvertures pour l'hiver. Est-ce qu'il a été prévu pour de la reconstruction? Et en fait, peut-être que les premières poches d'argent sont tombées d'abord pour traiter l'urgence.
Non.
Que je viens de nommer.
Non. Tout ce qui est nourriture, couverture et tout ça, l'État s'en est occupé. Les distributions n'ont pas arrêté depuis le début. Et l'État et les associations et les citoyens, ça n'a pas arrêté. Et ça n'arrête pas au jour d'aujourd'hui. Les citoyens ont arrêté. Les associations, beaucoup ont arrêté. Quelques-unes sont encore sur le terrain. Elles se comptent sur le bout des doigts. L'État n'a toujours pas arrêté. Donc, les dons continuent d'affluer. Et les paniers sont toujours distribués. Et les dons, au début, ils ont distribué une rente pour que les gens, mensuels, pour que les gens louent le temps que le terrain soit stable, que les plans soient sortis pour la reconstruction. Quand les plans ont été faits, ils ont donné un acompte pour que les reconstructions commencent. L'argent doit être divisé en 3 parties. Premier acompte, deuxième acompte, troisième acompte. Mais il y a quelques zones qui ont commencé les reconstructions, pas les autres. Pourtant, les gens ont touché l'argent.
D'accord.
Beaucoup de personnes ont touché l'argent.
Et donc, d'après vous, qu'est-ce qui freine ce processus de reconstruction? Est-ce que c'est juste la lenteur inertielle classique d'un événement comme celui-ci? Ou est-ce qu'en fait, il y a d'autres facteurs qui sont plus humains qui font qu'en fait, ça pourrait avancer plus vite? Mais en fait, c'est comme ça, entre guillemets.
D'abord, ces personnes-là sont nonchalantes en général. Les personnes vivant en montagne ne sont pas des gens dynamiques.
Dans le sens stressé par la vie.
Voilà. Ils ne sont pas stressés par la vie. Ça veut dire que si je ne fais pas aujourd'hui, je vais faire demain. Il n'y a pas le feu.
Ouais, ouais.
Ils se sont habitués à l'attente, ça va venir, c'est tranquille.
En fait, c'est plus, finalement, ce que j'entends, c'est plus des personnes résilientes. Oui. C'est qu'elles ont tellement l'habitude.
Elles acceptent. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, avec des donateurs, on a décidé d'offrir des modulaires dans un dohar. Des modulaires, c'est beaucoup plus confortable qu'une tente, surtout qu'on était à 1500 mètres d'altitude, qu'il fait très froid la nuit, qu'il allait pleuvoir. Donc, je suis arrivée, je leur ai dit, voilà, j'ai dégagé le terrain, on a ramené les tracks, on a dégagé les terrains. Je leur ai dit, on va vous installer les modulaires là. Ils m'ont dit, non. Nous, chacun veut son modulaire à côté de sa tente. Je leur ai dit, c'est pas possible. Je peux pas aller dans le camping et placer un modulaire à côté de chaque tente. En plus, le camion, il peut pas ramener les modulaires dans les tentes, dans le ravin. Le camion ne peut pas rentrer dans ces zones-là. Un camion grue ne peut pas rentrer dans ces zones-là. Il me dit, non, c'est comme ça, sinon on veut pas.
D'accord.
Ils ont préféré rester sous la tente que se déplacer.
Toujours dans cette crainte de potentiellement perdre leur...
Non, pas dans la crainte de perdre, parce que c'était juste à côté, quelques mètres.
D'accord.
Je leur ai dit, vous êtes sûrs? Ils me disent, oui, on est sûrs. C'était quelques mètres, mais c'était impossible. J'aurais bien aimé leur faire plaisir, mais c'était impossible que le camion aille dans le ravin et qu'ils mettent les... Et en plus, on ne peut pas poser un bloc dans un terrain qui est comme ça. Ils me disent, non, sinon on ne veut pas. Je leur dis, je vous donne 48 heures pour réfléchir. Non, on veut pas. Je leur dis, bon, tant pis pour vous. Et je vais dans un autre dohar et je leur installe les modulaires. Après, ils regrettent, ils m'appellent. Ça y est, on veut. Je leur dis, c'est trop tard. Je les ai donné un autre dohar. Donc, ils étaient prêts à rester sous la pluie pour ne pas faire l'effort de se déplacer de quelques mètres.
Et est-ce que c'est l'effort ou c'est plus une question, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, en fait, comme on est face à une population qui est analphabète, qui a peu accès à la culture et donc... Qui a peut-être un autre mécanisme de raisonnement. Que...
Oui, mais là, j'ai bien expliqué, j'ai pris le temps.
D'accord.
Je suis allée à leur niveau pour leur expliquer que ce n'était pas possible. Mais bon. Et en plus, le problème qu'il y a eu, c'est qu'on a eu des secousses qui ne se sont pas arrêtées pendant plusieurs mois. Les dernières secousses, on les a eues jusqu'à fin décembre. La terre a tremblé encore, donc c'était impossible de faire quelque chose. On a commencé à déblayer en janvier.
Donc, c'est tout récent, en fait.
Ah ouais.
On a eu des éboulements de terrain jusqu'en janvier. Donc, on ne pouvait pas commencer de construction tant que la terre tremblait encore et tant que les terrains en montagne sont très accidentés. Et on a toutes les montagnes qui sont fissurées. On a eu un gros rocher qui s'est détaché en janvier et qui est tombé sur une tente. Et le jeune homme est mort dans son sommeil en janvier. Pourquoi ? Parce que la montagne est fissurée et il s'est détaché dans la nuit, il est tombé sur la tente. Donc, il y a encore beaucoup de risques.
D'accord.
D'ailleurs, il y a des zones où ils ne pourront même pas reconstruire parce qu'il y a beaucoup de risques encore. Et le problème, c'est que les habitants refusent de se déplacer. Ils ne reconstruiront que sur leur terre. Ils sont prêts à rester dans les tentes et ne pas reconstruire, mais ils n'iront pas ailleurs.
Et comment tu l'expliques, du coup ?
C'est ce que leur dit leur petite tête. Ils ne sacrifieront pas leur terre. Ils sont prêts à rester dans n'importe quelle condition et ils n'iront pas ailleurs.
Au final, c'est ce qu'ils ont connu, en fait.
Oui, c'est ce qu'ils ont connu. Pour eux, c'est un déracinement.
Oui, je comprends.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes déplacés ou regardez les vidéos que j'ai sur ma page.
Oui.
Vous avez les éboulements et la montagne toute fissurée et ils ont planté les tentes sous l'éboulement. Vous voyez que la montagne est fissurée et ils ont planté la tente sous la montagne fissurée. Ils ne se sont même pas éloignés. C'est pour ça que ce jeune homme est mort, parce qu'il est sous les éboulements.
Oui.
Il suffit de pluie et que le terrain glisse. Pour que
derrière, ce soit de nouveau enseveli.
Oui. Et pas moyen de leur faire changer d'avis. Pas moyen.
Et justement, comment tu le vis, ce genre de situation où est-ce que tu te sens désarmée face à une population?
Oui, on se sent désarmée parce qu'on essaye de leur expliquer. Et souvent... C'est comme se cogner la tête contre un mur.
Selwa, ce qui frappe aussi en t'écoutant, c'est que bon, évidemment, t'es au plus proche du terrain et on comprend, tu disais tout à l'heure que vous êtes une quarantaine dans l'association, mais qu'il y a un petit cœur de cette association qui est vraiment, c'est quotidien et toi, c'est absolument tout le temps. Tu sais, c'est 20 heures sur 24.
C'est H24.
Qu'est-ce qui fait que ton association aujourd'hui se développe à la vitesse dans laquelle elle se développe? Est-ce que tu as l'impression qu'elle se développe comme tu le voudrais? Est-ce que tu vois qu'elle grandisse plus vite? Ou est-ce que finalement tu te dis, de toute façon, je ne pourrais pas, parce que je n'aurais pas le temps de m'en occuper? Je réfléchis un petit peu à comment ton association va se développer dans le futur. Et je me demandais, qu'est-ce qui aujourd'hui te limitait dans le développement de cette association? Est-ce que c'est le manque de moyens? Est-ce que c'est le manque de bras? Qu'est-ce qui fait que tu ne fais pas autant que ce que tu voudrais faire alors que tu fais déjà tout ton max?
Alors, cette année, j'ai fait beaucoup plus que d'habitude parce que j'ai eu beaucoup plus de moyens financiers, parce que les gens ont connu l'association à travers le séisme. Donc, si vous avez vu notre page, on a fait des choses incroyables. On a fait un internat pour reloger 220 enfants qui allaient être privés d'école toute l'année. Au début, on leur a installé 7 classes qui puissent retourner à l'école, parce que dès qu'on a fini les deux premiers mois, excusez-moi, je saute du coq à l'âne, les deux premiers mois, on a distribué vivres, tentes, vêtements, couvertures chaudes. Et après, on s'est dit, il faut penser aux enfants, parce que nous, on a toujours été dans la scolarité. Il faut penser aux enfants. Ces enfants doivent retourner à l'école au plus vite, parce que s'ils ne retournent pas à l'école, ils vont rester dans la crise du séisme. Il faut les sortir de ce qui s'est passé. Donc, pour les remettre à l'école, nous, on n'a jamais pensé aux tentes. Automatiquement, j'ai pensé à du préfabriqué. On s'est dit, allez, on va faire du préfabriqué pour les classes. On a commandé des classes préfabriquées et on a commencé à les livrer. On en a livré 22 à ce jour, d'être 12 écoles différentes. Et on a mis les enfants à l'école. Ça leur a permis de retrouver les bancs de l'école. L'État les a mis au début dans les tentes pour qu'ils puissent retrouver aussi l'école. Maintenant, ils sont aussi en train de faire du préfabriqué. Après, dans cette école-là, on leur a donné 7 classes. Après avoir posé les classes, je suis allée le 5e ou 6e jour. C'est dans ce devoir dont je parlais, où je voulais mettre les modulaires. Je suis allée voir si les enfants étaient bien retournés en classe. Et c'est un devoir qui est à 1500 mètres d'altitude. Et en arrivant, je leur dis, je voudrais savoir d'où viennent tous ces enfants, parce que le devoir est petit. Il y a 220 enfants à l'école. Et on me dit, ils viennent de tous les devoirs avoisinants. Il y en a qui sont à 2000 mètres d'altitude. Je leur dis, mais comment ils viennent ?
À pied.
Ils me disent, il y en a qui viennent à pied, mais avant, ils étaient dans cet internat-là, et l'internat, il a été détruit par le séisme. Et ce qui est dommage, parce que l'internat a été construit en 2018 et il n'a pas résisté au séisme.
D'accord.
Un très grand bâtiment. Je leur ai dit, bon, mais ça ne sert à rien que j'ai fait des classes, parce que s'ils ne sont pas logés, ils ne vont pas venir à l'école. Donc, je me suis dit, allez, on tente le coup, on va lancer une collecte rapide, on va faire un internat en préfabriqué le plus vite possible. Et on a lancé la collecte. Et en 2 semaines, j'ai collecté l'argent et on a conçu l'internat. En 1 mois et demi, il était sur pied, meublé, et les enfants étaient
top.
Dedans. Un projet magnifique. En plus, on l'a fait avec beaucoup d'amour. Si vous avez regardé la vidéo, on a fait le petit salon avec les livres, la petite télé, les jeux.
Ah, c'est génial.
Ouais, ouais. Et tous les partenaires qui ont cotisé étaient épatés, parce que je leur ai fait une inauguration et je les ai invités à un petit déjeuner sur place. Et ils étaient épatés parce qu'ils s'attendaient à trouver un petit internat rikiki. Et finalement, c'est un petit village tout mignon. Et les enfants étaient heureux. Ils m'ont dit, c'est mieux que l'internat qu'on avait en dur, parce qu'on n'avait pas de salon.
En dur.
On n'avait que les lits et la cantine. Ils étaient contents, les enfants. Et même l'État, ils
génial.
M'ont dit, c'est un internat qui va plus vite que chez nous. Donc, combien il a coûté ?
Il a coûté pour combien d'étudiants ? Vous
220
avez dit,
enfants. 220 enfants.
220 enfants.
Ouais.
Et pardon si je parle un peu de chiffres, mais ça intéressera ceux qui nous écoutent pour qu'on se rende compte un petit peu des sommes en jeu. Il vous faut combien d'argent pour construire
cet internat
pour
en préfabriqué
enfants.
Il a coûté, avec l'ameublement, il a coûté 2,5
millions. 2,5 millions de dirhams.
Oui.
Ouais, ok. D'accord.
Okay, il aurait pu coûter moins cher, c'était
un peu
pas
moins
enclavé,
de...
mais avec le transport et tout, ça a coûté 2,5
millions. 2,5 millions de dirhams, ça fait un peu moins de 250 000 euros, c'est ça,
initialement. Voilà.
Oui, exactement.
Mais vous allez voir, il est tout mignon, avec les stickers sur les murs, avec
c'est génial. Et donc,
les
tous ces dons sont venus...
On a tout mis, vraiment. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, dès que je me rappelle quelque chose, je rajoute. Parce que c'est un petit projet de cœur.
Bah ouais, bien sûr.
D'ailleurs, on va aller dîner avec eux pendant Ramadan, avec ces enfants-là.
Ah bah super.
On passe les voir de temps en temps.
Ah, c'est génial.
Et
c'est
après,
top,
on a
top.
Fait un village pour 68 familles, avec des modulaires aussi. Et on leur a donné les modulaires meublés, avec un côté kitchenette, avec la vaisselle, avec les matelas, avec les couvertures, des sacs de vêtements neufs, des denrées alimentaires pour passer tout le mois de Ramadan. Donc, c'était sympa aussi comme action. Et c'est un village qui a coûté aussi 2,5 millions.
D'accord.
Ouais.
D'accord.
Et justement, comme on parle là tout de suite de financement, c'est le problème numéro un des associations, le financement.
Exactement.
Est-ce qu'on peut citer des personnes physiques ou des personnes morales qui t'ont accompagné depuis le début, qui te financent depuis longtemps? Et est-ce qu'il y a, je ne sais pas si c'est le cas au Maroc, mais en tout cas en France, c'est le cas. Il y a une vraie concurrence entre les associations pour justement tirer un maximum de lumière et donc de financement. Quelle est la dynamique du marché des associations? Enfin, je suis désolée d'employer ce terme-là, mais du marché des associations au Maroc. Est-ce que pareil, il y a cette concurrence où chacun essaye de tirer de son côté.
Sincèrement, au Maroc, jusque-là, je n'avais que des donateurs physiques.
D'accord.
Je n'avais pas de société, je n'avais rien du tout. J'avais que des personnes physiques, mais qui me suivent depuis 2012, qui nous font confiance parce qu'en général, quand on fait une action et quand on demande des sous pour quelque chose, les gens retrouvent toute l'action de but en blanc sur notre page Internet. Il y a tout, depuis le début de l'action jusqu'à la fin. Les gens peuvent se déplacer avec nous, aller voir l'action. Quand c'est un forage de puits, ils le voient depuis le début jusqu'à la fin. Quand c'est une construction ou une rénovation d'école, ils ont tous les détails, peuvent avoir accès à tout. Donc, les gens nous font confiance. On leur a jamais dit qu'on allait faire quelque chose et qu'on ne le faisait pas. Cette année, on a eu plein de donateurs de l'étranger et du Maroc. D'ailleurs, on a eu EDF.
D'accord.
Et qui nous ont donné de grosses sommes. Et ça nous a fait très plaisir. Donc, le séisme nous a attiré beaucoup de donateurs et de l'étranger et du Maroc et beaucoup de sociétés qui ne nous connaissaient pas. Parce que quand on... Je vais vous raconter l'histoire du séisme. Quand il y a eu le séisme, il a tapé le soir. Moi, j'étais dans mon lit. Je n'ai pas paniqué du tout. Je l'ai senti à Rabat. Je dis à mon mari, tu as senti la secousse? Il me dit non, je n'ai pas senti. Je dis ben oui, il y a eu une secousse. Et je prends mon ordinateur et je commence à écrire le texte d'appel au don. Comme j'étais autorisée, on demande une autorisation pour faire un appel au don au Maroc.
D'accord.
Par le secrétariat général du gouvernement. Donc, comme j'étais autorisée, j'ai mis mon appel au don tout de suite sur les réseaux sociaux. Il était en ligne le soir même, parce que je savais, comme j'ai allumé la télé, j'ai vu ce qui s'était passé. Et donc, dès 8 heures du matin, les gens ont commencé à venir avec les dons. Et vous avez des vidéos sur notre page. On avait peut-être 2000 ou 3000 personnes devant notre dépôt.
Pour déposer les dons.
Pour déposer les dons.
D'accord.
Et pendant un mois, les autorités ont bouclé toute la rue. On avait tous les jours au moins 1000 personnes qui arrivaient pour trier les dons, pour nous aider. On a bouclé tout le quartier. On a pris les garages de toute la rue.
D'accord.
Tous les immeubles nous ont prêté les dépôts.
Ah, mais c'est magnifique.
Mais c'était juste magnifique. Jusqu'à aujourd'hui, on a des dons du premier mois du séisme où on continue de redistribuer.
D'accord.
Couvertures, vêtements et tout. Et c'était partout. Les gens prenaient des vidéos, ils les mettaient sur tous les réseaux et donc tout le monde nous voyait. On retrouvait des vidéos qu'on n'avait jamais mis nous, c'était des gens qui venaient qui les mettaient. Donc on était parmi les premiers à avoir mis un appel aux dons et parmi les premiers à avoir reçu les dons aussi.
Oui.
Et les premiers à distribuer parce que le jour même, donc le séisme a eu lieu à 9h ou 10h du soir et le lendemain à 8h du soir, on était déjà à l'Haoud en train de distribuer.
D'accord.
24 heures plus tard. D'où l'ampleur, l'importance de nos actions.
Oui. Oui,
et on n'a pas arrêté. Le premier mois, on était tous les soirs sur le terrain. Pendant un mois, tous les jours, on avait 4-5 camions quelque part en train de distribuer.
Magnifique.
Donc, voilà. Et ça fait qu'on a eu, on a eu beaucoup de publicité faite grâce à nos actions. Les gens nous ont beaucoup suivis et les gens repartageaient nos actions. Et ça a eu un effet boomerang.
Mais je pense que ce qui les rassure, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir tracer, entre guillemets, l'action
exactement.
De son début jusqu'à
exactement.
La fin. Vous partagez de façon assez transparente bah, les coûts de chaque projet. Et donc, derrière, ça permet de rationaliser les choses. Effectivement, 2,5 millions pour un internat, bon, je ne suis pas du tout du milieu, donc je ne sais pas si ça coûte cher ou pas, mais ça ne me paraît pas énorme. pour,
c'est du préfabriqué, mais le préfabriqué coûte presque aussi cher que le bâtiment.
D'accord.
Oui, presque D'accord. aussi.
Donc, le seul intérêt, c'est que finalement, ça va plus vite.
Plus vite.
Très clair. Avant de passer à la question sur comment on pourrait vous aider à l'avenir, j'aimerais bien qu'on fasse juste un petit temps d'arrêt. Si on projette El Baraka Angels dans 5 ans, comment tu imagines ton association? Comment tu penses qu'elle aura grandi et est-ce qu'elle se sera transformée?
J'aimerais que dans 5 ans, j'ai déjà des personnes que je paye pour faire le travail du bureau.
Oui.
Parce que pour le moment...
C'est que des bénévoles?
C'est que des bénévoles.
D'accord.
Et c'est un travail incroyable. Incroyable. Ça veut dire qu'on fait la compte à nous-mêmes, on fait les courriers nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes. Et chacun de nous travaille. Moi, par exemple, je gère un institut de beauté et je travaille moi-même.
D'accord.
Ça veut dire que c'est du 9h du matin à 8h du soir, samedi compris.
Mmh.
Et en plus, je fais ce travail-là et je ne lésine pas. Et ça veut dire que depuis le séisme, je n'ai pas mis les pieds à mon salon de coiffure.
J'imagine.
Je l'ai laissé couler. Pour El Baraka Angels, parce que pour moi, c'est beaucoup plus important que de gagner de l'argent. Donc, j'aimerais arriver à un stade où El Baraka Angels pourrait financer 2 ou 3 employés qui pourraient assurer le travail, aller visiter les chantiers. Par exemple, pour les 100 puits, maintenant, je suis obligée de me déplacer tous les 4-5 jours pour les puits, pour vérifier que tout est bien fait, avoir quelqu'un pour les chantiers qui puisse aller vérifier. On a les chantiers des écoles avec le séisme. On va rentrer là sur une construction d'école, une école qui abrite 280 enfants. On va la construire avec le groupe La Belle Vie.
D'accord.
Et on va construire toute l'école. Ça veut dire que ça va être un gros truc.
Oui.
Et je vais être obligée de me déplacer toutes les semaines pour superviser le chantier parce que je ne construis pas comme ça.
Mm-mm.
Même si je ne suis pas architecte, pour moi, c'est une responsabilité pour El Baraka Angels. C'est le maître d'œuvre.
Oui.
Donc, même quand on construit une petite école, il nous est arrivé de construire 2 ou 3 classes dans une école. Ben, c'était 8 heures de route. On se déplaçait 1 semaine sur 2 pour aller vérifier. On ne construit pas et on oublie, on ne fait pas un puits, on n'y va pas. Pour moi, c'est une très lourde responsabilité, donc on prend les choses à cœur. On n'a pas beaucoup de gens pour nous relayer le travail. Que chacun, les bénévoles, je ne peux pas les obliger. Moi, je laisse mon travail, je suis responsable de mon travail, c'est mon job. Ça m'appartient, les autres sont employés. Je ne peux pas leur dire n'allez pas à votre travail au risque qu'ils se fassent jeter.
Oui.
Donc moi, je laisse mon travail, ce n'est pas grave. Mais tous ceux qui travaillent avec moi sont salariés. Je ne peux pas leur dire n'allez pas à votre travail pour un travail qui n'est pas payé, rémunéré. Donc déjà ça, j'aimerais arriver à un point où on est des donateurs réguliers.
Oui.
Parce que les collectes d'argent sont très difficiles à gérer. Cette année avec le séisme, ça a été beaucoup plus facile parce que les gens nous ont fait confiance. On a reçu des dons de grands organismes qui nous ont envoyé de super montants pour qu'on puisse faire toutes ces actions. Ça nous a facilité un peu la vie. On n'a pas eu à penser à collecter au jour le jour. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas eu de frein. On ne s'est pas arrêté pendant 7 mois parce que sinon, on serait arrêté plusieurs fois. Donc, nos actions étaient successives. Les unes, on n'avait pas fini une action qu'on avait commencé l'autre. D'ailleurs, elles sont successives. Par exemple, pour les paniers Ramadan, ce week-end, on distribue 1000 paniers. Ça va faire 4000 paniers. On n'a pas arrêté.
D'accord.
Chaque week-end, on distribue 1000 paniers pour les zones sinistres. J'aimerais aussi avoir plus de bénévoles ou de membres responsables parce que le social, c'est beau. Mais les gens prennent ça comme une distraction, alors que le social, on l'a dans le cœur. Moi-même, quand je suis fatiguée, je m'oblige, parce que je sais que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui attend et qu'on ne peut pas se permettre de décevoir cette personne-là. Et que quand on décide de faire quelque chose, c'est comme un travail. Même si ce n'est pas rémunéré, pour moi, c'est pareil. J'ai décidé d'aider cette personne. Ce n'est pas parce que je ne suis pas rémunérée pour que je vais dire ce n'est pas la peine, je ne le fais pas. Non. Au contraire. C'est pas rémunéré, je vais le faire doublement. Donc, c'est comme ça. En Europe, les gens, quand ils décident de faire du bénévolat, ils le font avec cœur. Ici, les gens se lassent très vite. Ils ont bien envie de faire ça 1 fois, 2 fois, et puis après, ils arrêtent. Ils prennent pas le bénévolat avec cœur. Déjà, parce qu'il n'est pas enseigné au lycée.
D'accord.
Il n'est pas obligatoire à l'université. Même quand ils donnent le bénévolat en obligation, ils donnent 35 heures. En 35 heures, qu'est-ce qu'on peut faire comme bénévolat ? Rien du tout. L'université m'envoie des élèves blasés pour 35 heures de bénévolat. La dernière fois, elle m'a envoyé des élèves pour 35 heures. Ils arrivent chez moi au bureau et j'avais une jeune fille, Sciences Po, de Paris, une Française. Elle était en stage chez moi. Sciences Po l'envoyait 3 mois de bénévolat chez moi. Elle les entend me dire 35 heures et elle se tape un fou rire. Je lui dis, Manon, pourquoi tu ris ? Elle me dit, mon université m'a envoyé pour 3 mois. Eux, ils viennent pour 35 heures. C'est quoi ça ? On peut pas aimer le bénévolat en faisant 35 heures. C'est rien 35 heures, surtout si tu viens 1 ou 2 heures par semaine.
Oui.
Qu'est-ce que tu vas apprendre ? Comment tu vas aimer le bénévolat ? Le bénévolat, c'est à force de le faire qu'on l'aime. C'est à force. Les jeunes, quand ils viennent, ce qui les intéresse, c'est d'aller avec toi distribuer pour voir les gens. Non, il faut te plier à la tâche, te fatiguer à la tâche. Le fait d'aller sur place, c'est un cadeau.
Oui.
Quand tu vas chez les gens, le fait de dire le paquet, le sourire, c'est le cadeau. Mais avant, il faut suer pour avoir le sourire. Donc, le bénévolat devrait déjà être enseigné ici à l'université et être une note obligatoire. L'université, elle va sortir au moins sur 10 élèves, 5 ou 6 qui aiment le bénévolat. Ça devrait être obligatoire.
Mais c'est vrai que sur le principe, tout le monde est partant, tout le monde est d'accord et tout le monde dit « mais oui, bien sûr, j'ai envie d'aider ». Mais entre l'envie et l'action,
exactement.
C'est là où le bas blesse finalement.
Exactement. Voilà, donc comme ça, parce que moi je vois l'association plus tard, rénover des dispensaires en montagne, créer des activités génératrices de revenus en montagne pour que les femmes n'aient pas besoin justement du panier qu'on va leur apporter, ne plus distribuer de panier, au contraire faire des activités génératrices, que ces gens-là n'aient plus besoin qu'une association passe les aides, mais qu'elles aient des aides autres du travail, un job, que ces associations viennent les aider à trouver un emploi plus tôt. Mais pour ça, il faut avoir des jeunes qui travaille avec toi, qui puisse aller former ces gens-là, beaucoup de choses. Et pour ça, il faut avoir aussi des sous pour leur placer des activités. Des coopératives de tapis, des coopératives d'autres choses, les aider à écouler plus tard leurs produits, parce que si on leur crée des coopératives et qu'ils ne peuvent pas les vendre après, ça ne sert à rien. J'ai vu des coopératives, il y en a plein, mais ils ont des tapis, ils ne les vendent pas. Ils ont plein de tapis, mais ils ne les vendent pas. À qui vont les vendre ? Il faut que l'association les suive, leur mette un site internet, les aide à vendre leurs produits.
Créer un réseau de distribution, voilà, et tout l'écosystème qui va avec.
Les formes pour que le tapis soit nickel, qu'il ne soit pas fait sans les mesures, que les dessins soient symétriques, parce que les gens ne veulent pas un tapis fait n'importe comment. Même, ils veulent bien un tapis du bled, mais ils veulent que les dessins soient cohérents, soient symétriques, soient...
Et comment les gens qui nous écoutent peuvent aider El Baraka Angels ? Les auditeurs, ils découvrent l'association, ils t'entendent parler. Oui. Ils doivent se dire, je veux aider, mais comment je peux aider ? Est-ce que c'est en donnant du temps ? Je comprends que c'est en partie en donnant du temps. Est-ce que c'est du réseau ? Est-ce que c'est de l'argent ? C'est tout ?
C'est un peu tout, c'est en donnant du temps. Alors, El Baraka Angels est situé sur Rabat. On a toujours besoin de volontaires pour... on a tout le temps beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Vous ne pouvez même pas imaginer le travail. On travaille tous les jours que Dieu fait. On a un tas de travail à faire. En donnant des fonds, parce que même si on a du travail, si on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire sans argent. En nous donnant des idées, si vous avez des idées lumineuses, on est preneurs. En nous faisant de la pub, en partageant nos posts, en nous suivant sur Instagram, vous trouverez tout ce qu'on fait un peu sur Instagram. Les idées, on est toujours preneurs, parce que chacun de vous peut avoir des idées lumineuses que nous, on n'a pas, et qui pourraient nous aider à offrir à ces gens-là des choses plus intéressantes, peut-être. Voilà.
Et du coup, on rappellera dans tous les cas, dans le cadre du post, les informations relatives aux coordonnées bancaires de El Baraka Angels, parce que je suppose que pour les fonds, c'est par virement.
Exactement.
Ou ça se fait par un autre moyen, non ?
Non, pas clairement.
Très bien. On rappellera ces éléments-là, les points de contact aussi. Comme ça, ils pourront prendre la tâche avec l'association.
Merci beaucoup.
Et contribuer autant que possible. Pour conclure, je pose toujours la même question. Dans les auditeurs qui nous écoutent, il y a peut-être des bénévoles de l'association. Il y a très certainement et probablement... beaucoup de personnes qui découvrent l'association.
Oui.
Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ?
Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. J'espère que El Baraka Angels sera à la hauteur de vos attentes et qu'on a besoin de tout le monde. Marocains, Français, on est tous pareils. Et la France et le Maroc ont toujours été amis. Mes enfants habitent en France. Moi, j'adore la France. Vous êtes les bienvenus. Voilà.
Super. Merci beaucoup,
Selwa.
Merci pour ton temps.
Et merci pour votre écoute.
Encore une fois, le projet que tu mènes est magnifique et j'espère
merci beaucoup. J'espère qu'on pourra le développer et qu'on ne parlera plus de zones enclavées.
Exactement.
Qu'il n'y aura plus d'enclaves.
Très bien. Rendez-vous dans 5 ans.
Inch'Allah.
Merci, Selwa.
Merci.
Merci d'avoir écouté Selwa nous raconter l'histoire de El Baraka Angels. Ça ne vous aura pas échappé que cette histoire est familiale. Donner de son temps, de son écoute, de sa parole, de son énergie, c'est donner un peu tout, y compris ce que l'on a de plus cher au monde, sa famille. En écoutant Selwa, je me figurais ses enfants regarder leur maman se démener comme une diablesse. En matière d'éducation, comme souvent ailleurs, les actes comptent plus que la parole. Pas de doute, Selwa est exemplaire. En écoutant Selwa, je pensais aussi à toutes ces familles qu'elle a aidées et qu'elle continue d'aider. Leur quotidien a changé, parfois même il ne ressemble plus à rien de ce qu'il était, en bien évidemment. S'en rendent-ils compte ? La plupart, oui, très certainement, d'autres un peu moins, d'autres encore pas du tout. Est-ce si important ? El Baraka Angels fait du bien, pour cela nous lui disons merci. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée ou à notre newsletter sur le site histoireentreprise.com, histoire avec un S et entreprise avec un S. En plus de cet épisode, vous retrouverez sur la newsletter de plus en plus d'informations, liens, livres et vidéos sur le thème du jour. Merci à tous pour votre fidélité. À mardi prochain.